Interview.
2 jours.
Bonjour, je suis Renard. Aujourd'hui, je vais discuter avec Mathilde Ramadier, autrice de « Vivre fluide, quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité ». Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Tout d'abord, une petite présentation. Je suis une personne trans, blanc, bi, dans la trentaine. Mathilde, tu es une femme cis, blanche, dans la trentaine aussi. Tu te situes sur le spectre comme bisexuelle et hétérosentimentale, en tout cas aujourd'hui, car la fluidité est importante, comme l'indique le titre de ton livre. Tu as déjà publié une dizaine de livres sur le féminisme, le travail et sur l'écologie, dont la BD Corps public, co-signée avec Camille Ulrich. Pour écrire ce livre-ci dont on va parler aujourd'hui, tu as rassemblé tes observations, jeté un regard analytique sur ton passé, ta propre expérience, utilisé les précieux outils que sont les sciences humaines, les arts et la culture, puis tu as mené l'enquête. Je cite le début de ton prologue. « Je me suis d'abord adressé à mon entourage, à mes amis bisexuels, lesbiennes et queer, auprès d'associations LGBTQ+. De fil en aiguille, passant constamment de l'échelle macro-sociale à micro-sociale, remarquant que le sujet suscitait enthousiasme et curiosité, j'ai recueilli des témoignages auprès de personnes hétérosexuelles ou refusant toute étiquette. » J'ai ainsi échangé avec 42 personnes âgées de 15 à 58 ans, des femmes cisgenres et des personnes non-binaires. Qu'elles soient ici chaleureusement remerciées de m'avoir ouvert les portes de leur intimité. Je précise qu'en utilisant le terme de femme, j'inclus toutes celles qui se définissent ainsi. Mais avant ce prologue, il y a l'introduction dans laquelle tu dévoiles ton propre cheminement depuis ton enfance et tes expériences adolescentes jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ce choix donc de commencer par ton histoire personnelle ?
Alors c'est vrai que ce livre est plutôt un essai, enquête, écrit à la première personne, comme ça se fait de plus en plus ces dernières années. Et d'ailleurs ce modèle de livre nous vient plutôt des États-Unis. Si j'ai fait le choix effectivement dans cet avant-propos, cette introduction de partir de mon expérience personnelle, c'est parce que comme beaucoup, je pense que l'intime est politique et que si j'ai raconté cette histoire, c'était pas pour parler de moi. D'ailleurs, c'est pas forcément un plaisir de s'exposer. C'est un peu flippant quand on écrit un livre et qu'on parle aussi de son intimité, mais c'était pour embarquer le lecteur, donner la main aux lectrices et aux lecteurs qui pouvaient se sentir concernés et leur dire « Voilà, moi j'ai vécu ces choses de cette façon, j'ai envie d'utiliser le fait d'écrire pour être une porte-parole pour certaines personnes qui pourraient peut-être moins facilement raconter ce qu'elles ont vécu. » Et puis de partir de cette expérience personnelle pour élargir l'entonnoir et ensuite aller voir une quarantaine d'autres personnes, plonger, comme tu l'as bien résumé, dans les sciences humaines et aller voir des études, aller voir ce qu'on en dit des auteurices à travers l'histoire, des scientifiques. Et on a reproché, par exemple, à certaines autrices par le passé, comme Simone de Beauvoir, de ne pas s'être suffisamment mouillée sur leur histoire personnelle, de ne pas avoir... on leur a fait un procès après coup, moi, que je trouve un peu facile. On a reproché à Simone de Beauvoir, d'ailleurs, de ne pas avoir affirmé clairement, haut et fort, à l'époque, qu'elle était bisexuelle. C'est un peu oublié aussi qu'on était dans les années 30, 40, 50 et que déjà publier le deuxième sexe, c'était faire acte de courage. Mais je pense que voilà, avec les différentes vagues féministes qui se sont succédées depuis et puis les ouvrages qui paraissent ces dernières années, on voit comment les expériences individuelles ont quelque chose de plus rassembleur et comme ce sont ces textes-là qui peuvent aussi nous inspirer, nous embarquer, faire en sorte que les lectrices et les lecteurs vont s'identifier aussi.
Oui, et c'est vrai qu'on entend souvent une sorte d'argument de légitimité à partir du moment où la personne se présente comme une personne elle-même concernée par le propos qu'elle développe aussi.
Oui, tout à fait. Ça, pour moi, c'était effectivement une question un peu d'honnêteté intellectuelle, voilà, de raconter en préambule pourquoi je m'intéresse à ce sujet depuis si longtemps, pourquoi je décide d'en faire un livre maintenant, et aussi parce que j'aurais aimé pouvoir, moi, à l'époque, au début des années 2000, en France, ne lisant que le français, trouver des livres dans lesquels j'aurais pu trouver des figures auxquelles m'identifier, et que c'était pas trop le cas à l'époque. Enfin, c'était même pas du tout le cas.
Et même encore aujourd'hui, tu le dis dans ton livre que quand tu as fait des recherches avant de lancer cette écriture, tu as trouvé des ressources sur la bisexualité en anglais, mais en français aussi, c'est toujours assez absent, quoi.
Oui, et de même que bah, on voit les travaux de Judith Butler, ils ont été traduits il n'y a pas si longtemps, hein. Enfin, si je ne me trompe pas, plus de 15 ans après, donc il y a un peu ce mouvement de retard, et effectivement j'ai trouvé des psychologues, des sociologues, des anthropologues américaines qui ont conduit des études qui ne sont pas traduites en France et qui sont pourtant très, très signifiantes, très intéressantes.
Alors, la première partie de ton livre est historique. Tu retraces l'histoire de la bisexualité, même quand elle n'était pas encore nommée comme telle, de l'Antiquité à la Californie des années 90, en passant par l'histoire de la psychanalyse que tu as étudiée, entre autres choses. Et cette partie se termine sur le Bisexual Manifesto, qui a été écrit en 1990 par un collectif bi de la baie de San Francisco, fondé par l'écrivaine féministe Lani Kaoumanou. Et ce qui m'a troublé à sa lecture, c'est que les discriminations et revendications citées sont vraiment les mêmes qu'aujourd'hui. Mathilde, est-ce que tu voudrais bien nous lire?
Bien sûr.
Le Bisexual Manifesto.
Alors, je raconte en préambule que cette personne avait d'abord fait un coming out lesbien, et puis quelques années plus tard, un coming out bisexuel, et que dans les deux expériences, dans les deux cas, elle s'est sentie discriminée par certaines personnes, et donc ça a renforcé un peu son impression de n'être nulle part à sa place et d'être toujours la minorité de quelqu'un, et surtout de toujours avoir des stéréotypes en fait qui lui tournaient autour. Alors je lis en effet ce manifeste bisexuel qui est né donc dans les années 90 dans la baie de San Francisco, la fameuse. Nous sommes fatigués d'être analysés, définis et représentés par d'autres personnes que nous-mêmes, ou pire encore, pas du tout considérés. Nous sommes frustrés par l'isolement et l'invisibilité imposée qui découle du fait que l'on nous impose ou que l'on attend de nous que nous choisissions une identité homosexuelle ou hétérosexuelle. La monosexualité est un diktat hétérosexiste utilisé pour opprimer les homosexuels et pour nier la validité de la bisexualité. La bisexualité est une identité entière et fluide. Ne supposez pas que la bisexualité serait de nature binaire ou due aux gammes, que nous aurions deux côtés ou que nous devrions être impliqués simultanément avec les deux genres pour être des êtres humains épanouis. En fait, ne supposez pas qu'il n'y aurait que deux genres. Ne confondez pas notre fluidité avec de la confusion, de l'irresponsabilité ou une incapacité à s'engager. N'assimilez pas la promiscuité, l'infidélité ou les comportements sexuels à risque avec la bisexualité. Ce sont des traits humains qui traversent toutes les orientations sexuelles. Il ne faut rien présumer de la sexualité de qui que ce soit, y compris la vôtre. Nous sommes agacés par celles et ceux qui refusent d'accepter notre existence, nos problèmes, nos contributions, nos alliances, nos voix. Il est temps que la voix bisexuelle se fasse entendre.
Merci beaucoup Mathilde. Pour faire le pont avec l'époque actuelle de nos jours, je recommande les fanzines en ligne sur InfoKiosque « Les licornes existent et ont la rage » sur la biphobie en milieu queer et « Deux fois plus de chance le samedi soir », titre très ironique, dans lequel il y a une liste de phrases biphobes comme par exemple « Et un jour tu vas décider de te maquer, tu finiras hétéro ». Ou tu devrais te définir comme ci, comme ça. Des questions au partenaire d'une personne bisexuelle. Ah, mais t'as pas peur d'être trompé ou d'être quitté pour
deux
une relation
plus.
Hétéro? Oui, voilà. Ou les bis sont moitié homo, moitié hétéro. Ou encore, c'est politique de refuser de coucher avec un mec. Alors ça, c'est spécifique au milieu lesbien. Mmh. Et le meilleur pour la fin, je sors avec un mec trans, mais je suis toujours lesbienne, ne vous en faites pas. Mmh. Donc ça, c'est de la biphobie et de la transphobie.
Mmh. C'est alors, vrai que c'est les mêmes, on retrouve dans ce manifeste qu'il y a 30 ans, oui, un peu les mêmes clair, choses ouais. qu'aujourd'hui. Alors il y a aussi un compte Instagram qui recense les stéréotypes et les discriminations qui s'appelle Paye ta bi. Mais on voit que ce sont des... Et même au-delà des années 90 et de ce manifeste de San Francisco, quand j'ai mené mes petites enquêtes, mes petites recherches, on remonte dans le temps et on retrouve toujours ces discriminations. La première, en fait, c'est un stéréotype d'invisibilisation qui consiste à dire que c'est une passade, que c'est juste une phase, parce que ça peut pas être sérieux, ça peut pas exister. Et donc, forcément, la personne va se ranger d'un côté ou de l'autre, vers l'une ou l'autre des monosexualités. Et donc, ça, en plus, ça entérine la binarité de genre en supposant qu'il n'y a que deux types d'orientation valables.
Oui, je peux même témoigner que ça m'est arrivé de me rendre compte que certaines personnes étaient plus choquées d'apprendre que j'étais bisexuelle, alors que ces personnes avaient d'abord présumé que j'étais gay. Et donc... était moins choquée de l'idée que je sois homo que de l'idée que je sois bi.
Mmh. Oui, il y a une sorte d'impensée, en fait. Je vais un peu rappeler cette formule très discutable de la psychanalyse, et on va être amené à en reparler après. Freud disait que la sexualité féminine, c'est le continent noir de la psychanalyse. Il voulait dire par là que c'était tellement complexe, que c'était tellement surprenant, qu'il avait l'impression qu'il n'y comprendrait jamais rien. Et effectivement, il n'y a rien compris. Mais je dirais que avec ce livre, j'avais envie de sortir aussi la bisexualité plutôt féminine, d'un supposé continent noir, et de montrer que c'est, d'une part, que ces personnes existent, que leur sexualité, elle est valable, que la façon dont elles s'identifient est valable, que ça relève de raisons personnelles, d'un continuum social, que ce soit ancré dans une histoire, etc. Et de regarder aussi à travers l'histoire que ça a plus ou moins toujours existé, qu'on la nomme comme ça ou pas, parce que c'est vrai que le mot bisexualité assez récent, en fait, jusqu'au début du 20e, c'était alors ça vient d'abord de la botanique au 19e, et puis après ça a été vite récupéré par la médecine et la psychanalyse, mais ça désignait plein de choses qui étaient assez différentes, en fait. On confondait un petit peu l'orientation sexuelle avec l'identité de genre, et donc c'était un terme qui est lui-même resté flou assez longtemps. Et même, je pense, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il n'est plus très clair, malgré effectivement tous les termes maintenant qui existent aussi, notamment celui de pansexuel. C'était assez instructif de parcourir aussi toutes ces étiquettes, tous ces mots pour désigner des choses.
Je vous propose une petite pause musicale avec une chanson qui s'appelle Meuf d'Olympe Chabert. Sur la découverte de sa bisexualité, et sa chanson est une sorte de bingo de la biphobie intériorisée. Elle montre vraiment l'état d'esprit assez vulnérable par lequel toute personne bi peut passer.
J'ai un problème avec les belles meufs. Elles me fascinent et je peux pas m'empêcher de les bouffer du regard dès que j'en croise une au détour d'une teuf. Je sens ma langue qui s'agite comme un poisson dans son bocal. Bon d'incendiaire, sévère ou pompière. Laissez-moi être la pâtisserie sous les doigts nus de la boulangère. Et les petites brunes, je sais que sous leurs airs, de petites camines ingénues se cachent des talents culinaires. Jouer, jouer avec elles, qu'elles posent leur bouche sur la mienne. Je voudrais pas leur faire de la peine, parce qu'au fond, je suis pas sûre. Garçon, fille, moi je dis oui, mais je deviens peut-être à la mode, je vois s'élargir. Avec tout ça, l'amour des autres dépasse les bornes chez moi. Et j'aurais pas dû prendre d'extane. Je voulais embrasser tout le monde sauf mon gars. Peut-être que je m'identifie à toutes ces poupées. Peut-être que j'aimerais leur ressembler. Peut-être que pour éviter d'être jalouse, j'essaie de les choper. Peut-être que mon égo de meuf est un peu embrouillé. Jouer, jouer avec elles, qu'elles posent leur bouche sur la mienne. Je voudrais pas leur faire de la peine, parce qu'au fond, je suis pas sûre. Garçon ou fille, moi je dis oui. Mais je deviens peut-être à la mode, je dois s'élargir mes envies. J'ai pas assez avec les hommes, peut-être que je suis dans le déni. Je suis perdue par les gueules. Je sens mes lèvres sur mes pieds à chaque fois que je veux une meuf. Devant les mecs, je suis blasée. Je drague instinctivement. Mais devant les meufs, je perds mes moyens et je deviens immature. En séance solo, quand je pense à elle, je peux pas choisir. Claude a raison, elles sont toutes belles, belles, belles. Parler leur langue, ça me fait manquer d'air. Elle est plus efficace que toutes les copulations de misère. Garçon, fille, moi je dis oui. Mais je deviens faite à la mode, je vois c'est là.
C'était la chanson « Meuf » d'Olympe Chabert.
Dans laquelle elle nous raconte qu'elle est perdue par les codes, et on la comprend, parce que les codes, à la fois, on a l'impression qu'ils évoluent vite, mais en même temps, c'est toujours difficile aujourd'hui de s'émanciper d'un modèle hégémonique qui nous est imposé partout, hein, celui de l'hétérosexualité. Et elle dit aussi qu'elle a envie, alors je sais plus comment elle le formule, mais elle dit qu'elle a envie d'élargir le spectre, enfin de prendre un peu la tangente. Et ça, moi, ça me rappelle le texte d'une philosophe qui s'appelle Adrienne Rich. À moins que ce soit Monique Wittig, là, du coup, j'ai un petit doute. Mais je me souviens de cette expression où l'autrice dit que devenir lesbienne, c'est être une fugitive. C'est une façon de sortir de la condition féminine qui nous a imposé notre place en tant que femme dans un modèle hétéro, et que voilà, devenir lesbienne, c'est une façon de s'émanciper, de partir. Et ce qui est fou aussi, c'est que Simone de Beauvoir disait la même chose, et elle reprochait à l'époque d'ailleurs à la psychanalyse de ne pas avoir vu ça comme ça, et d'avoir pensé toujours cette sexualité féminine lesbienne comme quelque chose d'inauthentique, parce que toujours penser en fonction du désir des hommes. Donc ouais, Olympe Chabert.
Et est-ce que tu as retrouvé, j'imagine que oui, mais est-ce que tu peux nous dire à quel point tu as retrouvé ces discriminations dans les témoignages que tu as recueillis, et notamment comment tu as constaté que ça impactait la santé mentale de ces personnes ?
Alors effectivement, pour écrire ce livre, j'ai mené une petite enquête, alors qui n'a aucune prétention scientifique, hein, parce que mon échantillon était assez faible, mais j'ai interrogé 42 personnes avec qui j'ai vraiment pris le temps, avec un questionnaire qualitatif, c'était pas un QCM, c'était des personnes âgées de 18 à 58 ans à peu près, non, même plus jeunes, il y avait des adolescentes. Et toutes rapportaient effectivement ce sentiment d'illégitimité. D'abord, la difficulté quand on sent poindre ce désir qui nous porte vers plus d'un genre, ce sentiment qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de rôle modèle, comme le disent les sociologues, c'est-à-dire pas de très peu de personnages dans la pop culture, dans la littérature, la musique, etc., auxquels pouvoir s'identifier. Alors, c'est de plus en plus le cas. Mais là, je parle effectivement de personnes qui étaient peut-être comme moi, adolescentes au début des années 2000. Et une fois qu'elles sont, en train de découvrir leur sexualité, hein, qui ait eu d'ailleurs un passage à l'acte ou pas, c'est pas la question, mais là, à partir du moment où elles veulent commencer à en parler à leur entourage, il y a ce stéréotype d'invalidation, Avant même de vouloir invisibiliser, on essaie de rendre invalide, c'est-à-dire de dire mais c'est pas une sexualité, ça, c'est juste un passage. Comme toutes les jeunes filles, tu t'es un peu amourachée de ta meilleure amie, comme dans le célèbre roman de Violette Le Duc. Voilà, c'est une passade d'adolescente, et puis forcément après tu vas revenir dans le droit chemin, hein, tu vas revenir à la raison, et puis de devenir hétérosexuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui a marqué les personnes que j'ai interrogées, souvent à un âge assez jeune, et donc un âge dans lequel on se construit, un âge formateur, et qui a pu conduire ensuite à une perte de confiance en soi, des états effectivement dépressifs. Alors, dans les personnes que j'ai interrogées, ça n'allait pas plus loin, mais c'est quand même quelque chose de marquant, et il en restait une forme de évidemment de tristesse, mais un peu de rancœur aussi.
Ouais. Oui, et c'est important de rappeler un chiffre qui peut surprendre quand on croit que les personnes bi et pan vivent plutôt deux fois qu'une, comme tu l'écris. Les femmes bisexuelles sont statistiquement deux fois plus à risque d'un épisode dépressif majeur que les lesbiennes.
Oui, et aussi en raison notamment du backlash qu'elles peuvent, donc des représailles dont elles peuvent être victimes, être le support en cas de rupture, par exemple, avec un homme hétérosexuel qui va faire du chantage, qui va utiliser effectivement le fait qu'elles sont bisexuelles pour argumenter en faveur d'une infidélité. Ce sont des personnes qui sont très souvent hypersexualisées. Ça a été très véhiculé évidemment par la pornographie mainstream, mais aussi par la pop culture. Je parle dans le livre de cet épisode célèbre des MTV Music Awards en 2003, si je ne me trompe pas, où en direct Madonna a embrassé Britney Spears. Alors on pensait tous que c'était un acte effectivement spontané, etc. Tout ça a été savamment orchestré, hein, c'était prévu, et c'était inclus dans une chorégraphie quand même extrêmement sexualisée, extrêmement érotique. Et donc, ça faisait quand même passer le message. C'était quand même aussi du pinkwashing, hein, de la récupération. Et ça faisait passer le message que les femmes qui sont attirées par une autre femme, ça va forcément se faire dans un contexte très sexuel, de performance.
Oui, et d'ailleurs... des chiffres vraiment assez graves quand tu parles de cette hypersexualisation. De façon générale, les femmes bi ont 3,7 fois plus de risques de subir une agression sexuelle que les femmes hétéros. Et donc l'hypersexualisation, c'est une des pistes pour expliquer cette énorme différence. Et puis le fait aussi que la bisexualité féminine n'est pas perçue par les hommes comme une sexualité à part entière et autonome, en fait en dehors d'eux, qui ne les concernent pas.
Tout à fait.
Qu'ils ont tendance, notamment à cause de la pornographie, comme tu le disais, à la considérer comme une manière de satisfaire leurs désirs. Et puis il y a aussi la situation où... il y a leur besoin de réaffirmer la suprématie de l'hétérosexualité et donc de leur possession du corps féminin après ce qu'ils appellent, eux, une phase d'expérimentation. Hein,
exactement. Oui, c'est-à-dire que un rapport entre deux femmes ne pourrait être pensé uniquement qu'en lien avec le désir masculin qui, en fait, véhicule un fantasme de multiplicité des partenaires. C'est-à-dire que c'est un peu le fantasme de l'homme tout-puissant qui possède plusieurs femmes. Et alors, on parlait là de Madonna, de Britney Spears et de la pornographie, mais j'ai découvert que ce fantasme-là est très ancien, et j'ai lu dans un catalogue d'exposition de la BNF notamment que les premières photographies érotiques qui s'échangeaient sous le manteau à la fin du 19e siècle et qui étaient collectionnées, alors qui étaient interdites, hein, ben, parmi ces photographies érotiques, le motif le plus demandé, le plus apprécié, c'était deux femmes ensemble. C'était ça ce que les hommes s'arrachaient le plus.
Oui. Et tu vois ce qu'on vient de dire là à propos des hommes qui ont besoin de réaffirmer leur possession du corps féminin après la soi-disant phase d'expérimentation. Ça peut faire penser aussi de façon dramatique au viol correctif sur les lesbiennes. Mais du coup, quand on est une femme bisexuelle et que on va se retrouver de son plein gré à se mettre en relation avec un homme en qui on a confiance au départ, il peut y avoir aussi des viols conjugaux avec ce motif-là. Et au niveau des violences conjugales, 61% des femmes bisexuelles ont subi agression, harcèlement ou viol pour 35% des femmes hétéros. Mmh. Et pour la violence psychologique, on monte à 76% chez les femmes bi et 41% chez les hétéros.
C'est ce qui fait notamment que beaucoup de femmes bisexuelles font le choix, et c'est ressorti aussi des témoignages que j'ai pu récolter, font le choix de ne pas le dire souvent à leur partenaire masculin. De vraiment attendre d'être dans une relation de confiance, de longue durée, et d'être sûre qu'il n'y aura pas de... d'interprétation biaisée, genrée, sexiste.
Et tu as remarqué qu'elles le cachent plus à leur partenaire masculin qu'à leur partenaire féminine ?
Elles le cachent plus au partenaire masculin par crainte de violence, de représailles ou de récupération. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est forcément bien accepté par les partenaires femmes. Et quand on parlait tout à l'heure d'ailleurs de ce sentiment de se sentir nulle part à sa place, j'ai découvert avec beaucoup de tristesse, alors ce que moi aussi j'avais pu expérimenter par le passé, mais c'est que les femmes bisexuelles sont souvent rejetées par les communautés lesbiennes qui pensent qu'elles sont des traîtres parce qu'elles continuent de relationner avec des hommes et qu'elles leur reprochent finalement la même chose en miroir. Donc c'est vrai que ce sont des situations d'injustice parce que les personnes bisexuelles se sentent appartenir aux communautés LGBTQI+, et pour autant, cette lettre-là, la lettre B, elle est un peu coincée entre les autres.
Ouais. Oui, c'est le fameux bis-abstenir qu'on peut lire sur les annonces sur les applications de dating, sur des annonces de femmes qui ne veulent pas sortir avec des bis.
Oui.
Et la nécessité d'espace politique où exister et lutter en se sentant légitime revient régulièrement. Et ce manque-là est souvent cité comme cause aussi de dépression et en tout cas de mal-être des personnes bisexuelles. Parce que comme on le voit, l'expérience de vie bi, c'est pas à moitié hétéro, moitié homo. Donc il faut vraiment des espaces spécifiques à cette identité et à ses besoins. Tu termines le chapitre « La bisexualité psychique, un caillou dans la chaussure de la psychanalyse » par « La bisexualité, c'est l'organisation psychique sans pouvoir. La bisexualité, c'est le versant anarchiste de la sexualité. » J'adore cette phrase. Quels sont ou pourraient être, selon toi, les effets sur l'individu et pourquoi pas même au niveau social de cette mise en relation à soi et à l'autre anarchiste?
Alors, anarchiste, ça veut dire étymologiquement sans pouvoir, avec une absence de pouvoir, que ce pouvoir soit étatique ou qui vienne d'ailleurs. Là, dans ce contexte-là, j'imagine une sexualité émancipée, sortie du pouvoir hégémonique de l'hétéropatriarcat, mais aussi sortie d'une pensée binaire de l'orientation sexuelle. Et dans ce même fil de pensée, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'orientation sexuelle, il y a une situation sexuelle à un moment donné qui peut varier. C'est un peu comme le consentement. Le consentement, il est valable à l'instant T, mais on peut revenir dessus. Et une situation sexuelle, c'est pareil. On peut se définir, se sentir bi à un moment, et puis plus hétéro, plus homo à un autre moment, ou pan, et voir en fait la sexualité humaine, non pas comme effectivement un truc binaire entre lesquels il y a un essuie-glace en fait qui balaye, mais comme un continuum. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi avaient contribué les travaux d'un scientifique américain qui s'appelle Kinsey dans les années 50, qui a mené deux grandes études sur la sexualité humaine. Et lui, il a inventé une échelle qui est célèbre depuis, l'échelle Kinsey, qui va de 0 à 10. Alors on pourrait dire, c'est encore une échelle, il n'y a que 10, curseurs, mais il y en aurait une infinité de plus. Mais bon, pour les années 50, c'était déjà pas mal. Il avait dit, il n'y a pas que homo et hétéro, il y a plein de nuances entre les deux. Et quand il a mené sa grande étude auprès des femmes, auprès de 8000 femmes états-uniennes, il a remarqué que 25% d'entre elles se situaient ni à 0, ni même à 1, ni à 9, ni à 10, mais vraiment entre les deux. Et donc oui, j'imagine cette... une étude, comment dire, une vision plus anarchiste de la sexualité comme capable de penser la sexualité sur un continuum, émancipée de ces facteurs binaires et de l'hétéropatriarcat. Mais je pense qu'on y arrive un petit peu.
Oui, ça rappelle une phrase du Bisexuel Manifesto que tu as lue un peu plus tôt, quand ils disent « ne supposez pas qu'il n'existe que deux genres ». Et j'aime bien cette définition de la bisexualité comme l'attirance pour plus d'un genre. La bisexualité, c'est pas l'amour de la binarité, c'est pas non plus... voilà, il y a eu des accusations et il y a toujours des personnes qui supposent qu'il y a une forme de transphobie chez les personnes bisexuelles parce que bi, deux, on aimerait que des hommes, vrais hommes, des femmes, vraies femmes, bon, qui sont des personnes qui n'existent pas. À travers ça, je peux voir effectivement le côté un peu anarchiste dont tu parles, de ne pas supposer finalement qu'il n'y a que deux genres.
Et c'est pour ça que le terme de bisexualité ou de bisexuel est absent du titre de mon livre. Alors ça a été un long processus de réfléchir au titre du livre. C'est toujours le cas avec un éditeur, c'est quelque chose dont on parle beaucoup au moment où on rend le manuscrit. Mais là, c'était une vraie prise de tête. Et mon manuscrit s'appelait Fluide pendant 2 ans. Et j'ai choisi le terme vivre justement pour montrer que j'avais pas envie du terme désirer ou aimer. Je voulais quelque chose d'invitant. Et avec le terme de fluidité, je voulais éviter cet écueil justement de la bisexualité qui entérine encore une fois la binarité. Alors on m'a reproché de mettre le terme d'hétérosexualité dans le sous-titre. Bon, en même temps, je dis voilà, quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité, en même temps, il faut bien admettre que l'hétérosexualité, c'est la norme dans laquelle on baigne tout le temps et dont on veut se sortir. Mais on part quand même plus ou moins tous de là dans notre société, en France, ailleurs. Donc c'est un fait. Ouais.
Je vous propose une nouvelle pause musicale pour écouter Madame Claude de Thérapie Taxi.
Monsieur a une moustache et du rouge à lèvres. Monsieur, il sait qu'il est belle. Monsieur, il sait qu'il est belle. Monsieur est fasciné par son propre corps. Monsieur se trouve incroyable dans cette putain de robe. Monsieur est doux, monsieur est fou. Monsieur est pailleté pour la soirée. Monsieur est monsieur est monsieur est parfait pour ce baiser.
J'ai de la boîte, tu m'as regardé. Je sais que je suis belle. Abandonnée, j'ai fait le tour de la boîte. Tu m'as regardé, je sais que je suis belle. Abandonnée, je ne vais pas mourir d'angoisse. Pour tes beaux yeux, j'ai de l'amour et des vagues dans les cheveux. Je ne vais pas perdre la face devant tes amis. Je me sens bonne et dégueulasse si j'ai envie.
Regarde-moi tendrement dans les yeux. Je suis le garçon de la fille que tu veux. Et souris-moi lentement dans le club. Je suis la version de ta vie beaucoup mieux.
Monsieur une moustache et du rouge à lèvres. Monsieur il sait qu'il est belle. Monsieur il sait qu'il est belle. Monsieur une moustache et du rouge à lèvres. Monsieur il sait qu'il est belle. Monsieur il sait qu'il est belle.
Je me sens tout drôle, ce mec me fait un truc dans le ventre. Alors qu'il est sapé en femme,
c'est bizarre. Je me sens tout drôle, ce mec me fait un truc dans le ventre. Alors qu'il est sapé en femme,
je vais pas mourir d'angoisse. Pour tes beaux yeux, j'ai de l'amour et des vagues dans les cheveux. Je vais pas perdre la face devant tes amis. Je me sens bonne et dégueulasse si j'ai envie.
m'as regardé. Je sais que je suis belle. Abandonnée, je vais pas
mourir d'angoisse. Dans tes beaux yeux, j'ai de l'amour et des vagues. Dans les cheveux, je vais pas perdre la face. Devant tes amis, je me sens bonne et dégueulasse.
Madame Claude de Thérapie Taxi. Alors Mathilde, j'ai une question brûlante. À
le
propos...
caillou dans la chaussure.
Voilà, c'est ça. À propos de la psychanalyse, parce que donc ton écriture en est infusée et puis tu as écrit une bonne partie, enfin une bonne partie, un chapitre important du livre sur l'histoire de la psychanalyse vis-à-vis de la bisexualité. C'est une discipline souvent critiquée et rejetée pour avoir œuvré contre l'émancipation des femmes et les vies des personnes homosexuelles, transgenres, les personnes queer en général. Alors je me demande comment tu concilies ce domaine avec ton engagement féministe et ta recherche en dehors de l'hétéro-cis-norme.
C'est une très bonne question et je te remercie sincèrement de la poser. C'est un caillou dans ma chaussure aussi. J'ai étudié la psychanalyse, entre autres, en parallèle de mes études de philosophie, en étant très critique. D'ailleurs, j'ai fait une longue pause entre ma première année de master et ma deuxième année de master. Il s'est écoulé plus de 10 ans. J'ai fini il n'y a pas très longtemps, parce que je suis partie très fâchée. Du département de psychanalyse où j'ai commencé mes études à Paris 8, parce que voilà, on y sent une forme aussi de comment dire, de prise en otage de la pensée, hein, qui aurait déjà dans les psychothérapies uniquement la psychanalyse qui serait valable, et par-dessus le marché uniquement la psychanalyse freudienne et lacanienne. Bon. Je pense toutefois que ces générations de psychanalystes sont en train de partir à la retraite et qu'un renouveau est possible. J'ai fait le choix, moi, de rester autrice indépendante et d'utiliser la psychanalyse comme outil par moment, mais aussi pour la critiquer. Hein, dans ce chapitre, effectivement, dans Vivre fluide, je lui taille surtout un costard. En fait, je la critique beaucoup. Voilà, les pleins pouvoirs au concept de, au complexe de Dieppe, pardon, le concept de phallus, etc. Bon,
effectivement, le fait que ça a été très très construit par des hommes cis blancs.
Tout à fait, comme dans l'histoire de la médecine en général. Mmh. Alors, pour autant, je ne suis pas psychanalyste, je n'exerce pas en tant que telle, mais j'aimerais rappeler quelques petites choses. Alors, c'est pas pour défendre la psychanalyse dans son ensemble, hein, mais resituer des choses historiquement. Quand Freud arrive, et la psychanalyse avec lui, entre autres, on pensait que beaucoup de choses étaient déterminées biologiquement. Freud a quand même, la psychanalyse dit quand même que la sexualité, elle s'oriente avec un, non pas avec un organe, mais avec un choix inconscient. Et que donc ce sont des choix, les mouvements qui font qu'on va se tourner vers telle ou telle personne sont inconsciemment motivés. Et le genre qui n'est pas choisi va être condamné au refoulement. Fliess, le collaborateur de Freud au début, pensait qu'on était par défaut tous bisexuels, psychiquement, physiquement, voilà. Sauf qu'après, bon, Fliess, il est parti, et Freud a dit oui, il y a une bisexualité originaire, mais ça reste une phase immature qui est transitoire.
Merci,
avant un développement vers, je cite, la normalité. Et que en fait, les personnes bisexuelles seraient des personnes inachevées, qui n'auraient pas résolu leur complexe d'Œdipe pour devenir soit hétéro, soit homo. Donc, effectivement, merci la psychanalyse.
C'est clair, pour avoir jeté les bases de la bonne biphobie de bonjour.
Donc ça, effectivement, on parle beaucoup pour Singer, la psychanalyse, qui a une prédominance du sexuel chez Freud. Moi, je pense que le problème, surtout, c'est qu'il y a une prédominance du sexisme, effectivement, et que la monosexualité serait le seul développement normal, je cite encore une fois. Pour en revenir quand même à aujourd'hui, moi, je trouve important, c'est un autre débat qui nous sort un peu du sujet aujourd'hui, mais de continuer, de développer. Moi, je rêverais, mais comme Preciado d'ailleurs aussi, que la psychanalyse soit réformée. En fait, je ne souhaite pas qu'elle disparaisse complètement. Je crois encore à une réforme très, très profonde, scientifique, épistémologique, vraiment qu'on reparte avec des bases nouvelles. Pourquoi ? Parce que je trouve ça quand même important de défendre aujourd'hui des thérapies longues, des thérapies profondes à une époque où quand même le néolibéralisme s'est infiltré partout, y compris dans la santé mentale, et où maintenant il y a des thérapies un peu en tout genre qui se vantent d'être extrêmement rapides face à une psychanalyse qui était effectivement plus réservée à l'élite parce qu'elle est très longue, elle est très coûteuse. Mais je suis assez sceptique, moi, face à certaines théories comportementales et à tous ces coachs, en fait, qui ne sont pas psys, qui ne sont pas suffisamment formés. Voilà.
Oui, et de toute façon, c'est un autre débat. Oui, mais ça rejoint quand même le sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de santé mentale aujourd'hui. Les personnes bi et la communauté queer en général ont besoin de soutien à cet endroit-là, sachant qu'effectivement, la précarité matérielle dans laquelle sont davantage les personnes queer en général que le reste de la population, ne permet pas toujours l'accès à ces thérapies. Il y a un très bon podcast que je vous recommande d'écouter à propos de la santé mentale des personnes bisexuelles qui s'appelle « Pourquoi les bisexuels vont si mal ?» et c'est un épisode du podcast « Encore heureux ».
Et je préciserai aussi une chose, alors encore une fois, c'est pas pour défendre dans son ensemble la psychanalyse, ni la psychanalyse lacanienne, mais Lacan aussi avait quand même dit qu'il n'y a pas d'essence féminine unique. C'est-à-dire qu'on peut pas dire une femme c'est comme ça et pas autrement. Là je schématise un petit peu, mais voilà, il n'y a pas d'essence unique de la femme, ni de son mode d'être, ni de son mode d'aimer. Il n'y a pas d'ensemble sous lequel on puisse ranger toutes les femmes qui diraient tout de leur d'une prétendue nature. Ça c'est assez important et ça a aussi été très déformé, parce qu'en fait, pour parler de ça, Lacan, avec ses formules un peu alambiquées, il disait les femmes ne sont pas toutes soumises. Alors, au complexe de castration, là, je ne rentre pas dans les détails, mais le terme de « pas toutes » a été beaucoup repris et transformé en pensant qu'on disait « ah, les femmes n'ont pas toutes le phallus, et donc il leur manque quelque chose, etc. » En fait, ça a été pas mal simplifié, c'était autrement plus complexe. De là à faire Lacan un féministe, je n'irai pas jusque-là.
Tout à fait.
Mais voilà, ils ont quand même, la psychanalyse a quand même contribué à défaire des normes. Alors effectivement, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Il y a eu des
abus. C'est intéressant, j'aurais pas cru que ce serait Lacan qui viendrait dans cette émission donner un coup de pied dans la fourmilière du féminin sacré et masculin sacré. Voilà, c'est ces mouvances-là qu'on peut retrouver et qui rendent l'accès à certains espaces très difficiles pour les personnes queer, parce qu'en fait, ces mouvances-là sont tout simplement invisibilisantes de nos vécus. Hein, que fait une personne trans pour se mettre dans un espace soi-disant sacré? Je trouve pourtant que nos vies sont sacrées, mais bon, c'est un autre sujet. Mathilde, est-ce que tu veux bien nous lire une partie de la conclusion de ton livre?
Avec plaisir. Plutôt qu'à être fluide, plus qu'une prescription ontologique, j'invite à vivre fluide, à considérer ce que cela fait de fouler d'un pas léger de nouvelles régions, d'assumer son éros, de mettre la liberté en pratique, au travail, au galop, quitte à trébucher parfois, mais sans calquer son plaisir sur ceux des autres, sans s'identifier à une figure en particulier. On se jette avec délice dans ces eaux troubles à la manière d'Héraclite, en n'étant jamais la même, en n'étant jamais une seule. C'est un cheminement qui fait le voyage, peu importe le point d'arrivée. On traverse sans cesse la frontière, elle est incorporée, à l'intérieur de nous, on la digère, on l'efface, on la fait sienne. On devient autonome et flexible. Et le changement, la recherche d'équilibre, c'est la vie. La fluidité, c'est l'explosion des potentialités, l'affirmation d'une puissance féminine heureuse. La fluidité change les rapports sociaux entre les genres. Elle débride d'une autre dimension des rapports humains, à commencer par ceux que l'on entretient avec soi. La jeune Anaïs, 19 ans, que j'ai interrogée pour ce livre, m'écrit « Le fait que je m'autorise à aimer qui je veux m'apprend à m'aimer moi aussi. Je ne veux pas passer à côté d'une personne avec qui je pourrais être heureuse. La vie est trop courte. » En vivant fluide, on s'engage à ne reproduire aucune aliénation. On remet en cause le concept même de pouvoir pour un rapport véritablement anarchique au désir. « Je ne veux pas juste un salaire égal, je veux un plaisir égal », revendique l'humoriste états-unienne Ali Wong sur scène, construisant tout son spectacle autour du besoin pressant de tromper son mari, mais aussi de gagner plus que lui. Le féminisme se joue sur tous les terrains, y compris sur celui de la jouissance et de la transgression. Il y a quelques années, je passais un moment en tête-à-tête avec un ami hétéro à une terrasse de café. Tandis que nous discutions de choses et d'autres, j'ai senti qu'une question le turlupinait. Il faisait semblant de chercher ses mots. Et donc, avec une femme, comment... Je le voyais venir, avec sa bouille ingénue et les volutes d'air qu'il brassait de ses mains. Comment ça marche ? Je l'ai fixé d'un air bécasse, longtemps et exprès. « Ne compte pas sur moi pour te filer un mode d'emploi », lui ai-je dit. On a pouffé de rire, puis on est passé à autre chose. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que le désir est l'essence de l'être humain. Pas nécessairement en tant que fondé sur le manque, comme le disait la psychanalyse, ni sur une prescription, mais en tant que grand principe directeur. Oui, voilà, le désir en tant que grand principe directeur. Vivre fluide en est une mise en œuvre.
Merci beaucoup Mathilde, autrice de Vivre fluide quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité.
Merci.
In my mind, just trying to figure out why you be stealing my time. In my mind, let us get into it. Grabbing my rhymes if you wanna get intimate. Likes are not always a benefit. Fuck what you heard on the internet. I ain't eat dinner yet, but I'm so full of myself I could skip it, yes. At times I be up in my feelings, but that only lasts for a little sec. In my mind, I see designs constantly morphing, they one of a kind. Figments of color discovering mine, fluttering nature. I'm a butterfly, out the cocoon. Popped out the bright in the room, a room. Image, carry myself through the gloom. Boom. In my mind, identity tried to murk me, she get murky. Underneath all of these facets, the pattern's added. On top the physique, it's not for fashion. I've been stacking layers of heat, where it's already hot to be. Attaching new details to the fabric of me. I mean, in my mind, I can't define it. But that's what life is, should be moving fast going forward. You really can't rewind it. That's what I get for not living in the moment. In the future, trying to give condolence to my past self. Shed till I'm inside out. The meaning of life's past self. Mind and my body's included in a vast self. Right now, what do I do with that? Can't act selfish, but can't be selfless. Cause then what am I left with but a foolish whack? I get the message, so who am I to you, in fact?